Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Leistari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients, oui.
Tout, j'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzel.
Oh mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange.
Why am cooking so good?
C'est de l'or, disait l'oncle. Ceux qui disent que nous sommes pauvres n'ont jamais mangé un bout de pain baigné dans de l'huile de chez nous. Ça sent la pierre et le soleil. Elle scintille, elle est belle, épaisse, onctueuse. L'huile d'olive, c'est le sang de notre terre. Ces mots sont de Laurent Godet dans Le soleil d'Escorta, roman qui a obtenu le prix Goncourt en 2004. Ils dépeignent l'amour que des gens peuvent avoir pour un produit et à travers lui, une fierté et une tendresse pour leur terroir, ce coin du monde dans lequel il et elle se sentent chez eux. L'amour pour le beurre, lui aussi, existe. Dans le tableau « Mode de beurre » du peintre réaliste Antoine Vollon, on peut voir un délicieux beurre jaune pâle dont on devine la texture ni trop dure ni trop molle, prêt à être tartiné sur une tranche épaisse de pain de campagne. L'huile d'olive et le beurre font partie de ces produits ambassadeurs d'une région. Leurs goûts sont des sismographes du paysage, le reflet du soleil qui a réchauffé des olives tout l'été, ou encore celui de l'herbe verte qui a nourri des troupeaux de vaches laitières. Alors oui, bien sûr que dans la vie, on pourrait se contenter de manger des légumes, des féculents, des céréales, bref, des ingrédients solides qui se mâchent et finissent par mourir sous nos dents. Mais que seraient ces aliments sans un peu de matière grasse pour les cuisiner ou les agrémenter? Dans des préparations salées comme sucrées, l'huile d'olive et le beurre sont le sel de la gastronomie. Pour défendre l'un et l'autre de ces deux produits qui sont plus que des matières grasses mais des étendards régionaux, je me suis entourée des représentants de deux patrimoines culinaires. À ma droite, j'ai un Breton nourri au beurre depuis sa tendre enfance et à ma gauche, une Niçoise qui ne jure que par l'huile d'olive. Ça donne d'un côté le Finistérien Yuen Lelay qui a ouvert la crêperie Krugen dans le 11e arrondissement à Paris. Il nous a expliqué son amour pour le beurre, mais attention, plus précisément le beurre salé.
Il n'y a pas de défenseur du beurre doux, tu le sais aussi bien que moi, c'est un faux débat.
Et de l'autre, nous avons Julia Sedevjian, la plus jeune chef étoilée de France, qui est à la tête du restaurant Bayetta et qui nous a parlé de sa passion pour l'huile d'olive.
Cuisine à l'huile, bien sûr. Mon camp, c'est cuisine à l'huile parce que je suis niçoise et qu'il y a plein d'oliviers à Nice. Culturellement, on cuisine avec l'huile d'olive et pas au beurre.
Quelles sont, tu penses, les possibilités qu'offre la cuisine à l'huile?
Déjà, l'huile d'olive, c'est bon pour la santé, alors que le beurre, pas vraiment. Il y a plusieurs utilisations. Moi, j'aime travailler l'huile d'olive pour plusieurs choses. J'aime travailler l'huile d'olive en cuisson, j'aime travailler l'huile d'olive en assaisonnement aussi. Alors que le beurre, c'est très compliqué dès qu'on veut cuire avec du beurre. Déjà, moi, je conseille de travailler avec du beurre clarifié parce que mettre du beurre, son point de fumée, il va être à 120 degrés. Donc, le point de fumée, c'est un peu à partir d'une certaine température, que ça soit l'huile ou le beurre, ça va commencer à faire de la fumée noire et c'est toxique et cancérigène. Donc, même une huile d'olive extra vierge, on va dire, on va pas pouvoir la mettre en friture parce qu'elle va fumer trop tôt et ça va pas être bon.
Ouais.
Alors qu'une huile raffinée ou vierge, ça va aller parce qu'on va avoir un point de fumée peut-être à 210 ou 160. Donc, non, moi, j'aime l'huile d'olive. J'aime ça, j'aime le goût de l'huile d'olive, j'aime les bienfaits de l'huile d'olive. Voilà, on soigne plein de trucs avec l'huile d'olive qu'on pourrait ne pas penser. Les cheveux, les ongles, ça prévient les risques des AVC, de plein de choses. Et puis voilà, moi, j'aime ça parce que ça vient de chez moi et que je m'en lasse pas, quoi.
C'est vrai qu'on dit que dans l'huile d'olive, il y a des acides gras insaturés.
Exactement.
C'est meilleur en fait pour l'organisme que les acides gras saturés.
Et c'est plus digeste que le beurre par exemple.
Mais j'aime bien que tu fasses un parallèle avec le fait que l'huile d'olive, c'est aussi quelque chose qu'on utilise en soin du corps pour prouver que vraiment c'est quelque chose de bon quoi, pour l'organisme.
Exactement. En général, on ne se tartine pas de beurre. Quoi.
on ne fait pas trop de pain.
Masque au beurre, j'ai jamais entendu.
C'est
quoi.
Ouais, c'est rare de faire des bains d'huile pour les cheveux, mais avec du beurre. Ou voilà. Pas volontairement en tout cas. Tu parlais donc de l'huile d'olive parce que tu es niçoise. Là-bas, donc, à Nice, on peut trouver des bonnes huiles d'olive?
Ouais. Beaucoup.
C'est en général dans les cuisines des familles niçoises, on va plutôt avoir des bonnes huiles d'olive.
Ah oui, complètement. Et puis c'est une huile d'olive de caractère. Les olives de Nice, elles ont ce goût-là vraiment spécifique. Et c'est une huile d'olive qui va avoir du goût, qui va avoir du caractère, un peu poivré, un peu... Moi, j'aime ça. J'aime pas les huiles d'olive douces, fruitées. Non. Moi, j'aime les huiles d'olive qui ont du caractère. Parce que j'aime les cuisiner, parce que ça apporte quelque chose au plat. Et comme je disais tout à l'heure, quand on utilise une huile d'olive pour assaisonner, alors moi, j'aime bien assaisonner tous mes légumes crus, toutes mes petites salades, juste tout simple. Huile d'olive, fleur de sel, basta. Et c'est tellement bon. Ouais. Ou un poisson qu'on assaisonne avec une huile d'olive, voilà, moi, c'est mon kiff.
Ouais. Alors, j'ai vu que l'huile d'olive de Nice est protégée par une appellation d'origine contrôlée. Donc ça, c'est un truc que j'ignorais. Est-ce que c'est une fierté, l'huile
Bien
d'olive
sûr,
à Nice?
Bien sûr, on est fiers de nos olives, on est fiers de tout. À Nice, de toute façon, on est chauvin, comme, comme les petites villes. Et voilà, on est fiers de ce qu'on a. Et bien sûr, c'est des choses qu'on dit régulièrement.
Ouais.
Faut pas toucher à notre huile d'olive, quoi. Voilà. Faut pas toucher à nos petits farcis, faut pas toucher à notre pan bagna.
Ouais, quand tu dis ne pas toucher, c'est-à-dire ne pas les déformer, changer les recettes.
Faut pas les abîmer. Ouais. Voilà. Parce que nous, ça nous tient à cœur. C'est comme ça qu'on les a goûtés.
Ça fait partie du patrimoine, alors. Ouais. Alors, tu parlais du côté un peu poivré, hein, c'est ça que tu as dit, à propos de l'huile d'olive. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va encore retrouver lors de la cuisson? Si tu utilises ton huile d'olive pour cuire quelque chose, à quel point tu penses que l'huile d'olive peut encore avoir un rôle une fois que c'est cuit?
Une fois qu'on l'a fait chauffer, l'huile d'olive, de toute façon, elle perd sa saveur. Donc, on va pas forcément retrouver les saveurs qu'on retrouvera quand on la mange à cru, juste avec un morceau de pain ou, comme on disait, en assaisonnement. C'est pour ça que je conseille, moi, pour l'huile d'olive de cuisson, et ce que je fais ici au restaurant, c'est de pas utiliser une très bonne huile d'olive pour la cuisson. Ça sert à rien.
Ouais, ça sert à rien. Ta meilleure huile d'olive à ce moment-là.
Oui, il y a... non. Franchement, pour moi, il vaut mieux utiliser... au lieu de prendre une extra vierge, soit une vierge, soit une raffinée, mais ça sert à rien de prendre une huile d'olive exceptionnelle, ça va la tuer plus qu'autre chose, la ouais. cuisson.
Par contre, en assaisonnement, là, tu vas choisir donc une huile un peu plus raffinée.
Un peu plus raffinée, enfin, pas raffinée dans le sens...
Oui.
Mais en tout
pas
cas,
raffinée dans le sens
huile d'olive qui va, où je vais avoir le coup de cœur, je vais me dire, ça, c'est les saveurs que je veux retrouver accrues comme ça quand... Ouais, une longueur en bouche, moi j'aime la longueur en bouche derrière, bien ronde, bien épicée, ce goût un peu de roquette à la fin, moi j'adore ça. Ouais.
Ah oui, le fameux goût de roquette. C'est une bonne explication là du coup, parce qu'on l'a en tête.
Parce que c'est ça ma cuisine aussi, j'aime bien... J'ai une cuisine gourmande, épicée, qui... J'ai pas une cuisine linéaire, non justement, j'aime bien quand ça part un peu à droite à gauche quoi, donc...
Ouais. Bah justement, parle-nous un peu des plats que tu as à la carte. À quel endroit tu peux mettre de l'huile d'olive dans les plats qu'on trouve ici chez Bayetta?
Alors déjà, j'ai les petits farcis en ce moment, que je vais bientôt enlever malheureusement.
Question de saison, j'imagine.
Ouais. Mm-hmm. Mais ça, du début à la fin, c'est huile d'olive. J'assaisonne mes petits légumes huile d'olive, on farcit. À la cuisson, c'est huile d'olive. Je fais une petite salade de blettes avec, que j'assaisonne avec de l'huile d'olive, avec des olives de Nice, les petites cébettes...
Ouais.
Ça, c'est le plat 100% huile d'olive.
Un concentré de la région, là, quand même.
Ouais.
Hein. Si on cherche Nice dans le dictionnaire, en mode explosion de goût, il faudrait pouvoir goûter ça pour avoir la définition quoi, de la ville. Pour les mauvais élèves, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un petit farci?
Alors, les petits farcis, en fait, ce sont des légumes qu'on va vider et qu'on va farcir avec une farce. Alors, il y a deux écoles, il y a la farce chair à saucisse ou la farce veau. Moi, je fais la farce à base de veau, avec un mélange de riz, oignons et les légumes qu'on a vidés, en fait, qu'on va remettre dans cette farce, qu'on va assaisonner, bien assaisonner. Et donc, on va farcir ces légumes et les faire dorer au four un peu confit, hein, pendant une trentaine de minutes, on va dire. Et voilà, et ça donne quelque chose de magnifique, puisque ça vient de chez moi.
D'ailleurs, alors si je peux me permettre pour commencer peut-être à lancer une mini polémique, mais un truc que je me suis demandé à propos des petits farcis, on dit que c'est vraiment très local, tu vois, par rapport à Nice, mais j'ai l'impression qu'en fait on le retrouve dans d'autres régions aussi, non?
Ah ouais, c'est-à-dire
Alors là, pour vous dire, les auditeurs et les auditrices, Julia vient de faire les gros yeux, de froncer les sourcils et d'avancer dangereusement le poing vers mon visage.
Non mais c'est vrai, moi j'ai des origines arméniennes. Et dans la cuisine arménienne, on a un peu l'équivalent, ça s'appelle les dolmas. Et,
ouais.
Et c'est des légumes farcis aussi, mais bon.
C'est trop bon les dolmas.
Ouais, mais les petits farcis, c'est les petits farcis.
C'est voilà. Les petits farcis, c'est comme ça, c'est niçois, ok
voilà.
D'accord. Et donc, du coup, ok, les petits farcis, donc il y a de l'huile d'olive dedans.
Après, j'accueille tous mes clients avec une part de pisse saladière.
Ah,
bien sûr.
C'est vrai. Genre, ouais. C'est-à-dire que c'est même pas eux qui commandent, c'est forcément sur la table.
C'est la muse-bouche qui arrive et on les accueille comme ça. Et en fait, rien que dans la pâte à pisse saladière, déjà, on va mettre l'huile d'olive. Donc là, on va faire notre pâte à pain avec la bonne huile d'olive. Confit d'oignons dessus, on confie les oignons bien sûr à l'huile d'olive encore une fois avec du thym, de l'ail, voilà, ça sent le sud complètement. Et ensuite je viens finir avec une olive, un petit anchois, ma feuille de basilic. Donc là encore une fois on est en plein dedans. Voilà, après j'ai quelques plats avec de l'huile d'olive, j'ai quelques plats aussi que je fais au beurre, mais ça faut pas le dire, faut l'oublier. Non, mais... parce que malheureusement, la cuisine française, c'est ça aussi, c'est la cuisine au beurre. Donc, il y a certains poissons que j'aime cuire au beurre parce que ça les nourrit et que ça leur donne une autre... Mais ça dépend les recettes. Ça dépend les recettes. Vraiment, les recettes de chez moi, jamais j'arroserai un poisson au beurre. Non. Ouais. Ça est soit grillé, soit à l'huile d'olive ou vapeur avec un trait d'huile d'olive à la fin. Ça, oui.
D'accord. Mais, voilà. Et est-ce que tu étais du genre, par exemple, à tellement aimer l'huile d'olive que... tu pouvais en boire une petite cuillerée ou...
Bon, je vais pas en boire comme ça une petite cuillerée, mais les dégustations d'huile d'olive, ça me dérange pas du tout d'enchaîner les petites cuillères pour goûter. Ouais, j'aime ça.
Ouais.
J'aime ça. Par contre, je suis du genre à me mettre de l'huile d'olive sur les lèvres quand j'ai les lèvres gercées, quoi.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais.
Ok, pour les nourrir.
Exactement. Non, c'est con, mais... Vu qu'en cuisine, t'as pas forcément ton labello qui traîne, tu vois, bah voilà, petite pipette d'huile d'olive, hop.
Ah ouais, pas mal. L'huile d'olive en pâtisserie ou dans les desserts, sinon, ça t'arrive de...
Ouais, de temps en temps. Déjà, dans mes cakes au citron, huile d'olive. Cake citron pavot.
Ah, trop bien.
Toujours l'huile d'olive. Ouais. Je trouve que ça amène, même au niveau de la texture, ça amène quelque chose de moelleux. Et le petit goût d'huile d'olive derrière, ah, j'adore.
Ouais.
J'adore. Ça, l'huile d'olive et la fleur de sel dans les desserts, je trouve que des fois, ça rapporte vraiment quelque chose en plus, quoi.
C'est la texture, en anglais, on dit moist. Et d'ailleurs, c'est un terme j'ai quelques amis à Londres qui disent, ah, c'est un des termes qu'on aime le moins entendre parce que, apparemment, ça leur gratte vraiment l'oreille. Moist. Mais oui, c'est exactement ça. Une texture qu'on n'arrive pas à avoir sans ajout d'huile, en fait. Hein.
C'est ça, exactement. Et j'aime bien l'huile d'olive avec les fruits rouges, ça marche bien aussi. Un petit peu de fruits rouges, un peu de basilic, ça marche très bien. Ça marche avec pas mal de choses. J'ai fait un test une fois avec ma tarte au citron, c'est un peu mon dessert emblématique. Ici, je fais citron fenouil avec un sorbet pastis. Et même ça, avec un peu d'huile d'olive, j'avais testé un sorbet huile d'olive et... c'est pas mal maintenant.
Et alors, tu parlais de l'association avec les fruits rouges. Ça veut juste dire mettre l'huile d'olive, un peu d'huile d'olive dessus, ou alors tu...
Ouais, moi, je les assaisonne comme une salade de tomates. Je taille mes fraises en quatre, mets des petites framboises, et j'assaisonne comme ça, juste avec un petit peu de sucre glace et l'huile d'olive. Et franchement, ça fait une petite vinaigrette. Moi, j'adore ça.
Et alors, dans tes souvenirs d'enfance autour de l'huile d'olive, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter ? Est-ce qu'il y avait des plats comme ça que tu kiffais trop et qui comporte de l'huile d'olive?
Ouais, bon, on l'a cité tout à l'heure, c'est la soca. La soca, t'as pas intérêt à mettre un bout de beurre avant de mettre la pâte dans ton plat, quoi.
Ouais, personne ferait ça d'ailleurs, j'imagine, Annie. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et nos auditrices ce qu'est la soca?
Donc la soca, en fait, c'est un peu une galette à base de farine de pois chiche. C'est un mélange de farine de pois chiche, eau, huile d'olive, bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on mange sans garniture, juste bien poivré à sortie de cuisson. Et il y a vraiment des fours spécifiques pour les fours à charbon, quoi, pour les soca, parce que sinon on n'arrive pas à avoir ce côté très croustillant dessus et moelleux à l'intérieur. Alors que c'est pas très épais, hein, c'est, allez, je sais pas, un demi centimètre d'épaisseur. Mais qu'est-ce que c'est bon.
J'ai essayé d'en faire une fois à la maison, le retour d'un week-end à Nice. Je me suis dit, mais j'aime trop ça, en fait. Mais c'est pas très compliqué à faire. Mais par contre, t'as raison, la cuisson, t'arrives pas à la reproduire.
À la poêle, c'est pas pareil.
Ouais.
T'auras jamais le même goût et jamais... Non.
J'avais tenté une technique un peu à la poêle et ensuite au four, tu vois, pour terminer de cuire. Et c'était pas exactement... comme sur le petit stand.
Non, il faut que la cuisson elle soit super rapide, très très forte. Limite, quand ils la sortent au marché, elle est un peu cramée sur le dessus, tu vois. Mais c'est ça qui est bon, là. Quand elle est croustillantes, toutes chaudes là.
Ouais.
Ça, les beignets d'aubergine, les beignets de fleurs de courgette, ça toute mon enfance, ouais, j'en ai fait des beignets. Ouais. J'adorais ça. C'est tout simple parce qu'une pâte à beignets, c'est quoi ? C'est farine, eau, sel, hop là, et tu. Ah, ça, j'adore ça.
Mm. Ouais, c'est vrai que les beignets, il y a un côté. Un peu festif aussi une fois que tu les as, quoi. Des petites bouchées comme ça pour tout le monde.
Ouais, puis ça amène. Moi, c'est mes souvenirs de repas de famille, quoi. Dès que t'es un peu nombreux, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on fait des beignets, tu mets ça au milieu de la table. Ça, j'adore.
Bayeta, ça veut dire petit. Ça veut dire.
Ça veut dire bisou, en fait.
Bisou en patois.
C'est une expression. Expression chez nous, c'est Bayeta, c'est aller bisou à plus, voilà, quoi.
Ah oui, tu peux le dire à l'oral, comme ça ?
Ouais.
Ouais, d'accord. Ouais, okay. Genre, allez, bisous, j'y vais.
Exactement.
D'accord. Ça me fait penser à une expression qu'on m'a fait découvrir récemment. J'ai des amis qui sont installés en Anjou. Et là-bas, pour se quitter après une conversation, les gens disent allez, topette.
Ben voilà. Genre, c'est notre topette
à nous. Allez, j'y vais, quoi.
Cette discussion avec Julia m'a fait penser à cette huile d'olive italienne que j'adore, la Villa Zotopera, bénéficiant d'une AOP. Un breuvage vert satiné absolument incroyable qui offre du relief à n'importe quel légume. Notons au passage que l'huile d'olive est un ingrédient de choix pour les personnes véganes puisqu'il ne comporte aucune graisse animale, contrairement au beurre. Récemment, Olti, un ami albanais venu nous rendre visite à Paris, m'a apporté une bouteille d'huile d'olive issue de sa production familiale. À chaque fois que je l'utilise en cuisine, j'ai l'impression d'ajouter un petit morceau de son village natal à mes plats. C'est ça que j'aime avec les huiles et les condiments en général, cette sensation d'avoir à sa disposition toute une palette de traits d'union venant des quatre coins du monde, et pouvoir jouer avec comme on choisirait des teintes d'aquarelle face à une toile blanche. En deuxième partie d'épisode, j'ai tendu le micro à Yuen pour cette fois entendre un argumentaire en faveur du beurre. En tant qu'enfant des Hauts-de-France, j'ai d'ailleurs plus souvent connu les plats cuisinés comme ça. Ça nous fait un point commun avec Yuen, un breton amoureux du beurre. Oui, je sais, c'est un pléonasme.
Je ne suis que beurre finalement.
Tu es fait de beurre.
Ah, je ne suis que ça. Je me rappelle, parce que ma grand-mère était marailleur et mon oncle a repris le magasin de marais quand j'étais petit. Et on avait tout le temps une godaille de poisson qui arrivait à la maison. Hein, sur 9 repas à la maison, on en mangeait au moins 5 ou 6 avec que du poisson. Et ce qui est injuste, je le sais, parce que je fais partie de ces enfants qui ont mangé des kilomètres et des kilomètres de poisson.
La chance du bon poisson, en plus, j'imagine.
Exactement. Et c'est de la raie au beurre, c'est du turbo avec du beurre, c'est des filets de sole au beurre, c'est des crustacés avec du beurre. Et en fait, je ne suis que beurre, vraiment. Ouais. C'est incroyable. C'est mon père qui trempe son pain beurre dans son café le matin et en fait découle de ça une vie autour du beurre.
D'accord. Alors, tu as employé le mot marailleur. Précisons qu'un marailleur, c'est un grossiste, en fait. C'est
exactement.
Ça, hein, qui achète sur place tous les produits issus de la pêche.
À la criée,
qui
ouais.
Les revend donc aux marchands de poissons.
C'est ça.
Donc, tu étais aux premières loges pour manger plein
de
produits.
Oui, j'ai grandi dans le pays Bigoudin, dans un village qui s'appelle Pinmar. Il y a un très gros port de pêche qui s'appelle Saint-Guénolé. Moi, j'ai vraiment grandi sur ce port de pêche et j'ai vécu là-dedans. J'ai même travaillé à la criée quand j'étais plus jeune.
Et donc le beurre, c'est quelque chose qui va bien avec les poissons de façon générale ?
Exactement, ouais. Disons que ça fait partie d'une cuisine, ça fait partie d'une région qui utilise le beurre pour cuire et assaisonner ses plats. Je dis assaisonner parce que le sel qu'il y a dedans apporte énormément de valeur, je trouve.
Oui.
Et c'est notre façon de faire, ouais.
Alors du coup, beurre salé plus que beurre doux ?
Le beurre doux, je ne supporte pas ça. Je suis très, très, très salé. Je suis un enfant de la mer, hein. Clairement. Allez.
Faut que ce soit iodé, faut que le beurre salé puisse faire un écho, en fait.
Effectivement, ouais. Il y a le beurre salé, il y a différents beurres salés, en fait. Il y a des beurres salés avec des gros cristaux de sel, il y en a qui sont un peu plus discrets, mais cette petite touche en arrière-goût est quand même magnifique.
Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Je ne comprends même pas pourquoi le beurre doux existe.
Exactement.
et donc, il y a différents types de beurre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des beurres dans lesquels on va trouver des cristaux de sel plus épais.
Ouais.
Et d'autres, ce sera vraiment plus délicat. On ne verra presque
t'as
pas.
T'as vraiment, vraiment plein de façons de faire le beurre. Et il y a eu un grand virage dans les années 80 aussi avec l'industrialisation par de grands groupes sur la façon de faire du beurre. Il y a eu l'essor de la margarine. Il y a eu tout un changement sur le beurre qui nous a amené à découvrir d'autres choses et à revenir finalement en arrière sur du vrai beurre de baratte, vraiment le bon beurre comme on le faisait avant. Moi, je me rappelle, je sais même pas si cette marque existe encore, mais ma mère, pour un régime, un jour, a acheté du Saint-Hubert 41, qui est un beurre allégé, sans matière grasse. Et j'ai vu des larmes dans les yeux de mon père ce jour-là.
Cette marque existe toujours, je la vois parfois.
D'accord.
Ouais, mais évidemment, en supermarché, ma main se dirige toujours vers Paysan Breton, au Crissot de Sel. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu as plusieurs restaurants qui vendent des crêpes, du coup. Et donc, évidemment, dans la carte, on trouve plein de crêpes qui vont être préparées à partir de beurre.
Ouais. En fait, avant de créer les crêperies Krugen, on a fait un petit tour de Bretagne et on allait dans d'excellentes adresses qu'on a découvertes parfois même complètement par hasard. Et en discutant, du coup, avec des maîtres crêpiers, on avait tous ce truc de se dire, ouais, mais c'est le beurre qui fait le truc, en fait. Et c'est vrai. J'ai travaillé avec une crêpière aussi dans mon premier restaurant qui est resté un peu plus de 2 ans et demi avec nous. Et elle avait un geste très particulier, c'est-à-dire que elle tournait sa galette et elle jetait du beurre sous la galette, instantanément, pour avoir ce croustillant. Et en fait, ça faisait une différence incroyable. Et moi, j'ai appris à affiner mes techniques de maître crêpier grâce à elle. Et aujourd'hui, j'ai ce truc-là, effectivement, d'être très généreux sur le beurre.
D'accord.
On arrive sur une coloration, on arrive sur un goût. C'est vraiment... ça apporte vraiment quelque chose d'incroyable, quoi.
Et oui, bah oui, c'est vrai qu'en fait, c'est ça qui fait la différence, je trouve, entre certaines très bonnes crêpes qu'on va manger dans des crêperies et perso celles que je fais chez moi. Déjà, j'ai pas l'appareil, j'ai pas le Billig. Et puis, effectivement, je suis pas certaine de mettre autant de beurre en dessous. J'en mets un petit peu, évidemment, pour que ça n'accroche pas avec la
poêle. La clé, c'est de commencer par clarifier son beurre, de l'étaler généreusement une fois la galette tournée, de mettre ses ingrédients, et quand tu refermes ta galette, tu réétales généreusement du beurre. Il y a beaucoup de crêperies qui ne le font pas, c'est par exemple tourner à sec, plier à sec et mettre juste une noix de beurre. C'est pour moi un peu un non-sens, puisqu'on voudrait une homogénéité sur ce que le beurre peut apporter gustativement à la crêpe. Et puis on se retrouve toujours à manger un bout de crêpe avec un bout de beurre fondu, alors que moi je pense que ça devrait être partout.
C'est quoi ta crêpe préférée ?
Je dirais la galette saucisse quand même.
La galette saucisse.
Ouais.
C'est vrai que c'est...
Ça vient pas de chez moi, hein, on est sur le pays rennais. Ouais. Mais non, c'est festif, c'est simple, ça peut se prendre à emporter. C'est certainement, probablement même avec le sandwich, les deux street food les plus anciennes de France. Et ça a un petit truc en plus. J'ai en plus la chance de travailler avec une saucisse bretonne qui est tellement bonne.
Faudrait que je goûte la galette saucisse de chez Krugen. Moi, je connais celle des stands des Transmusicales de Rennes.
Ah oui.
Que tu manges toujours à 3h du mat, après avoir bu plein de bière.
Exactement.
Ça a une saveur incroyable. C'est le truc dont tu as besoin pour te requinquer.
C'est vrai.
Aux gens qui diraient, ouais, l'huile d'olive, c'est peut-être quand même mieux que le beurre. Toi, tu sortirais quels arguments en faveur du beurre ?
Bah, à titre personnel, je suis né dans le beurre. Et je crois que la première fois que j'ai utilisé de l'huile d'olive, c'est parce que j'étais en première année d'études et que ma mère, par conseil, m'a dit... Mets de l'huile dans ta poêle pour éviter que ça accroche. Donc en fait, le postulat de départ pour moi, qui n'y connaissais rien, c'était ça. Et il m'a fallu des années et des années avant de découvrir la cuisine méditerranéenne, et notamment les plats avec de l'huile d'olive, même qu'est-ce qu'une très bonne huile d'olive qu'on peut tremper dans un bout de pain, avec un bout de pain.
Ouais.
Et ça a pris des années, forcément. Moi, c'était la culture du beurre, quoi. Et puis la cuisine française un peu à l'ancienne. Ma mère est un véritable cordon bleu, donc j'ai vraiment grandi là-dedans. Et il a fallu, pour moi... de la curiosité et faire un effort pour aller vers l'huile d'olive.
Tu as dit que le beurre, c'est un ingrédient qu'on trouve à la base de beaucoup de choses dans la cuisine française. Mmh. C'est vrai qu'il y a bon nombre de nos sauces dans la gastronomie française qui sont liées à partir de beurre.
Et oui. Je trouve que le beurre a eu malheureusement mauvaise presse pendant des années, extrêmement gras. Et puis je pense que on revoit de plus en plus des artisans recommencer à faire du beurre, même dans les fermes aussi, on va trouver du bon beurre, fait vraiment à l'ancienne, et ça change les choses. Et malheureusement, le beurre a été un peu laissé de côté pendant longtemps, alors qu'en réalité, comme n'importe quel autre aliment, c'est la mesure qui fait la chose.
Moi, avant, j'aimais beaucoup les crêpes avec du chocolat ou du caramel, mais ça fait quelques mois, après quelques petits week-ends en Bretagne, que je me rends compte qu'en fait, finalement, c'est trop bon de juste prendre une crêpe beurre-sucre.
Oui.
Parce que ça permet, c'est un peu le truc étalon, comme quand on veut goûter une pizza et qu'on commande une margarita, par exemple. Mais je trouve que c'est un très, très bon moyen de savoir si on est dans une bonne crêperie.
Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et puis, alors, moi, j'ai mon truc, c'est la œuf jambon pour une galette.
Ouais.
Ouais, je sais pas pourquoi.
Mais c'est trop bon aussi.
Je sens tout de suite le truc, ouais. Je sais si la filet bio, je sais si le jambon est un bon jambon, je sais si le blé noir a un vrai goût de blé noir, rien n'est masqué ni par l'œuf ni par le jambon. Donc, c'est un peu ma galette étalon, ça. Parfois, juste du blé noir, hein, tout simple, avec du beurre salé dessus, croquant, bien crasse, comme on dit chez nous, donc croustillant. Ça suffit amplement, quoi. Puis t'as ce goût de noisette qui arrive, là, mélangé au cristaux de sel, hein, c'est parfait.
Alors là, tu parles de galette et ça me fait penser aussi, sinon, à la, au côté galette, mais utilisée presque juste au goûter en version un peu sucrée.
Ouais.
Pour l'anniversaire d'un pote qui fêtait ses 30 ans, on est allé en Bretagne. Et il y a quelqu'un dans la bande qui a fait des galettes de sarrasin, donc servies pour le 4 heures, mais avec du beurre et du sucre.
Ouais, ça se fait.
Et c'est super bon, c'est la première fois que je mangeais ça.
Moi personnellement, une blé noir au chocolat, je trouve ça délicieux. Clairement, t'as un mélange d'amertume du chocolat avec ce goût de noisette du blé noir, ça se marie hyper bien.
En parlant de beurre, on retrouve aussi le beurre dans les Queen Amann, les palais bretons, dans
effectivement, ouais.
Beaucoup d'autres préparations bretonnes.
Oui, c'est ça. Et moi, je suis passionné par Pont-Aven. J'ai la famille du côté de mon père qui habitait à Pont-Aven il y a très longtemps. Et tu connais certainement la biscuiterie de Pont-Aven qui est incroyable, qui a bercé toute mon enfance. Il y avait toujours, peu importe où j'allais dans le Pays Bigoudin, une boîte de gâteaux de Pont-Aven.
Ouais.
Ah ben c'était un truc, c'était hallucinant quoi. Et du coup, ce beurre qui est présent dans les Queen Amann, qui est présent dans les palais, qui est présent dans les petites galettes, même dans les petites crêpes dentelles.
Ouais.
Là, c'est du beurre pur, hein, soyons honnêtes. Hein,
ah oui, les crêpes dentelles, les gavottes, là, c'est
exactement.
Ça.
Exactement. Mm. C'est très très bon ça.
D'accord. Donc il y avait forcément cette boîte
toujours,
en fer.
Toujours. Tu allais prendre le thé, un café chez n'importe qui, on te sortait la boîte. C'est des petites boîtes en fer forgé avec des peintures de peintres qui sont de l'école de Pont-Aven. Hein. Et t'as ça partout quoi.
Je vois. Moi, j'ai grandi dans le Nord et du coup, l'équivalent, c'est les bêtises de Cambrai.
Ouais.
Il y a forcément une petite boîte de bêtises de Cambrai chez les amis des parents. Mm. Quels sont les critères, selon toi, d'un bon beurre ? Aide-nous à choisir un bon beurre. Alors, comment on peut s'y prendre ?
Ah, ça, c'est assez personnel.
Alors, tes critères à toi ?
Un bon beurre, pour moi... Ah, déjà, un bon beurre, moi, je le laisse à l'extérieur. Ça peut choquer. On l'a toujours fait avant. C'était comme ça que ça se conservait. Hein. On avait une cloche et on mettait le beurre, la motte de beurre à l'extérieur. J'aime qu'il soit pommade, qu'il soit bien fondant et facile à étaler. J'aime, parfois je change. J'avoue que parfois j'aime des gros cristaux de sel dedans. Ça dépend avec quoi je vais le manger, mais je dirais le plus gras possible. Mais par contre, je regarde toujours d'où il vient et qui l'a fait. C'est important pour moi. J'ai besoin de me renseigner sur ça.
Et est-ce qu'il y a des choses à savoir à propos de la couleur d'un beurre ?
Non, pas nécessairement.
C'est pas forcément gage de, tu vois, un jaune pâle ou un truc plus doré.
Non, ça peut. Non, il y a différentes techniques. Hein. Clairement, il faut aller voir des maîtres beurriers comme Bordier ou la laiterie de Kerguillet pour voir le panel de choses qu'ils arrivent à faire avec du beurre. Ce sont des produits vraiment de grande qualité et on retrouve toute couleur, toute texture. Non, il y a pas de. C'est au goût, hein, clairement, on le sent tout de suite.
D'accord. Ce qui est intéressant aussi avec les beurres Bordier, c'est toutes les déclinaisons proposées. Il y a du beurre Bordier aux algues, il me semble.
Ah ouais, celui-là, il est bon.
Il est super, celui-là.
Tu as piment d'Espelette, enfin, t'en as plein.
Piment d'Espelette aussi.
Ouais. Il s'est beaucoup lâché, et à juste titre, parce qu'il a sorti des trucs qui sont magnifiques, quoi.
Ouais, ouais. J'en profite pour te demander, parce que ça fait plusieurs fois que j'entends des Bretons et des Bretonnes dire ça comme ça, mais on dit plutôt Queen Amann ou Queen Amann ? J'entends un peu les deux.
Queen Amann. Ouais, en fait, Queen Amann.
Ah oui, d'accord.
Voilà, Queen Amann, on le dit en breton, c'est comme ça.
D'accord.
Comme ça que ça se prononce. J'ai une famille très bretonne du côté de mon père, donc je le prononce bien.
Ah oui, c'est pour ça que je l'entends Queen Amann parfois, mais c'est le A qui sonne peu...
Queen qui veut dire gâteau et Amann le beurre.
Ouais.
C'est pour ça. Et du coup, le Queen que nous on fait chez Krugen, c'est une version Bigouden. C'est pas un Queen Amann. C'est-à-dire que c'est comme un pancake visuellement, sauf qu'il y a une recette légèrement différente qui apporte un petit goût un peu différent. Et on le fait aussi au blé noir. Et on dresse des plats dessus.
Ah ouais, d'accord. Ouais,
c'est encore un truc complètement différent que j'ai voulu réinterpréter parce que loin de mon pays bigoudin, j'aime bien puiser un peu dans ce qui a fait ma culture, mais là où j'ai grandi en fait. Et comme je fais des soirées langoustines aussi de temps en temps, parce que voilà, c'est un truc hyper hyper important pour moi, quoi.
Trop bien. Mmh. Bah, c'était ton entourage ici qui doit être ravi, quoi.
Oh, que oui.
De devoir importer un peu.
Certains disent que je suis l'ambassade Bigouden de Paris. Après alors, quelques verres de cidre, bien sûr.
Bon, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que tous les Bretons et les Bretonnes hors de Bretagne embrassent ce rôle d'ambassadeur de la Bretagne.
Ouais, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est juste cool chez nous, c'est juste beau, c'est simple. C'est déjà peu habité, c'est la troisième région la moins habitée de France. C'est une géographie très découpée, assez sauvage quand même. Et je sais pas, je crois que c'est apaisant en fait.
Ouais.
Ouais, tout simplement. Et moi, je revendiquerai toujours que je suis breton avant de dire que je suis français. Mais parce que, pas de manière culturelle, mais juste parce que je suis séduit par ma Bretagne.
Ouais.
C'est tout.
Et alors, Tu n'as donc jamais acheté de beurre doux?
Non, parfois j'ai un peu cette déception quand je prends un brunch dans un hôtel. Tu sais, ces petites barquettes de beurre doux.
C'est souvent du beurre doux.
Oh, ouais. Je suis tellement triste à chaque fois.
J'ai discuté un jour avec le serveur d'un restaurant d'un hôtel. Je lui ai demandé, mais pourquoi vous ne mettez pas aussi du beurre salé? J'ai quand même l'impression que le beurre salé, finalement, ça plaît vraiment beaucoup aux gens. Et en fait, il m'a dit, le truc, c'est que le beurre doux, c'est le dénominateur commun. Et au pire, les gens qui veulent du beurre salé peuvent ajouter du sel.
Oh mon Dieu, c'est atroce. C'est atroce. Mais bon, admettons. J'ai un restaurant en face de l'autre restaurant Krugen, le numéro 1, qui s'appelle La Canonnière. Et il travaille avec un pain, avec Thierry Breton, qui fait un pain qui est magnifiquement bon. Et je vais de temps en temps leur piquer 2-3 bouts de pain et ils me mettent du beurre doux avec un peu de sel dessus.
Ah ouais?
Ouais. Et je peux le faire dans mon restaurant, mais là, il faut sortir aussi un peu du contexte et aller voir les copains qui bossent dans la rue. Et c'est mon petit rituel. À chaque fois que je viens, hop, j'ai mon petit bout de pain, beurre et sel. Ça m'a fait rigoler la première fois. Et puis bon, maintenant, c'est un petit rituel, quoi.
En vrai, j'ai déjà fait ça avec des gros crissots de sel et c'est OK.
Ouais, ça passe. C'est comme sur le foie gras, quoi.
Et alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le beurre doux?
C'est fade. Pour le coup, là, tu retrouves vraiment le gras pour le gras, comme une mauvaise huile d'olive, tu vois. Il n'y a pas les arômes, il n'y a pas la rondeur, quoi. Donc, non, très peu pour moi.
Tu trouves que c'est vraiment le sel qui permet de donner du relief?
Ouais,
quoi,
clairement. Ouais, comme dans tout plat, tu mets du sel et du poivre. C'est ce qui va rehausser, en fait.
Donc, peut-être que les défenseurs du beurre doux pourraient te dire qu'on sent plus le côté lacté, crémeux, tu vois, avec
alors,
le beurre
faux,
doux.
Alors faux, il n'y a pas de défenseur du beurre doux, tu le sais aussi bien que moi, c'est un faux débat. Mais non, personne, non, je crois que personne ne m'a jamais dit je préfère le beurre doux, vraiment.
Ah bon? Attends, ouais. Non, moi j'en ai autour de moi des gens qui préfèrent le
beurre
doux.
C'est vrai?
Ouais, ouais. Je les menace après de plus jamais les voir, mais en attendant, je leur donne quand même la liberté de parole.
Ils me font de la peine.
Bon, évidemment, chers auditeurs et auditrices qui apprécient vous qui appréciez le beurre doux, nous continuerons à vous apprécier aussi. Mais tentez quand
sûr.
Même le beurre salé, c'est
quand
même mieux. C'est quand même mieux. Donc, il y a aussi des beurres d'appellation d'origine protégée.
Oui.
Le beurre d'Isigny, le beurre de Bresse et le beurre de Charente-Poitou.
Ouais.
Est-ce que tu as une préférence en fait entre ces trois beurres ou...
Non, pas nécessairement. En fait, j'ai beaucoup changé de producteur par curiosité, pour essayer en fait. Et aujourd'hui, je travaille avec une petite ferme dans les Côtes d'Armor, tu vois, qui me va très bien. Mais j'ai un peu arrêté ma quête du beurre, si tu veux. Là, ouais. En ce moment, là, je suis beaucoup plus sur le jambon.
D'accord.
J'ai un très bon jambon, mais j'ai envie d'explorer par curiosité un petit peu ce qui se fait. Donc on est allé à Noël, là, au pire moment bien évidemment, visiter des producteurs. Et il y a des trucs intéressants. Ouais, c'est un peu mon prochain challenge, de pouvoir proposer éventuellement d'autres jambons.
Ce qui est chouette avec les crêpes, c'est que les produits utilisés sont quand même à chaque fois des produits de base.
Ouais.
La farine, le beurre, enfin, les œufs, le jambon. Du coup, ça donne vraiment ça donne encore plus envie de relever le défi de trouver le meilleur produit dans chacune de ces catégories.
Exactement, c'est comme les œufs. Hein. C'est utiliser des œufs bio ou pas. Enfin, t'as finalement assez peu d'ingrédients, mais il faut quand même que t'ailles chercher ceux qui font la différence, quoi.
Ouais.
C'est comme ça que tu fais une bonne crêpe, quoi.
Ouais, clairement. Ouais. Alors, si je te dis qu'en 2012, selon les derniers chiffres que l'on a, visiblement, en France, par habitant, on a consommé 7,4 kilos de beurre. Tu penses que t'y es à peu près ou plus?
Oh non, moi je suis au-dessus.
T'es au-dessus?
Clairement. Mon cuisinier qui rigole là, mais...
Tu penses que t'as
mais il me bat.
Ah ouais,
il a une histoire d'amour avec le beurre.
Bah, apparemment, les Français sont les plus gros consommateurs de beurre dans le monde.
Ouais, ça m'étonne pas.
On détient
Bah, c'est notre cuisine. Hein.
Ouais. Peut-être que tu peux nous parler d'un plat ici qui comporte du beurre et qui n'est pas une crêpe.
Un des trucs qu'on nous notifie souvent, c'est que notre caramel au beurre salé est particulièrement bon. Mais vraiment, c'est un truc qui revient régulièrement. La recette est très simple. C'est une recette qu'on trouve sur Internet. Il y a pas de surprise particulière. Mais je crois justement, c'est parce qu'on travaille avec un excellent beurre. Trouver un bon BOF, donc un fournisseur beurre, œuf, fromage, hein, qui va pouvoir te proposer différents produits, ou d'aller directement chercher dans des fermes des produits de qualité aussi.
Tu sais, BOF,
on dit un BOF, ouais.
D'accord.
Et chacun choisira ce qu'il a envie de faire, mais Mais c'est, je pense que le beurre a quand même beaucoup, beaucoup sa place dans cette recette-là. Ouais.
Oui.
Pour la petite anecdote, avant, parce que j'ai appris comme ça, une pâte de crêpe froment, on faisait clarifier un peu de beurre et on le mélangeait à la pâte. Et ça apporte effectivement un petit truc un peu plus gras. Et moi, j'ai arrêté de le faire parce que je voyais pas une énorme. Puis les gens me disaient c'est trop gras, on comprend pas, il y a un truc particulier. Mais j'ai arrêté de le faire. C'est assez étonnant comment finalement de quelque chose qu'on t'enseigne en Bretagne, parfois tu fais un peu marche en arrière.
On peut peut-être en profiter pour expliquer ce que veut dire exactement clarifier le beurre. Qu'est-ce que du beurre clarifié ?
Non, en gros, tu fais fondre ton beurre à basse température et tu vas venir ramasser en fait tout ce qui n'est pas le bon beurre, si tu veux. Le beurre, c'est de l'or liquide. Et tu verras quand tu le fais, une espèce de crème de résidu en fait sur le dessus qui flotte. Et tu l'enlèves à la cuillère tout doucement.
Oui, tu le laisses décanter en fait. Exactement. Ce que tu enlèves, c'est la caséine.
Exactement. Et tu te retrouves avec un liquide. C'est vraiment de l'or, quoi. C'est très beau.
Ouais.
Très, très beau. Ouais.
Le solilès du beurre, quoi.
Exactement, oui. Et tu le laisses au bain-marie à la bonne température tout le long de ton service. Et à chaque fois que tu étales du beurre, tu étales de l'or. C'est une pub pour le beurre.
C'est clair. C'est très beau.
Cet épisode sous forme de battle était un super prétexte pour mettre en miroir le beurre et l'huile d'olive. Mais je dois vous avouer un truc. Je ne suis ni team beurre ni team huile d'olive pour la simple et bonne raison que j'aime les deux. Avec de beaux poivrons, j'ai une préférence pour l'huile d'olive. Mais pour saisir des champignons, je trouve que le beurre est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, il m'arrive même de mélanger les deux pour une cuisson à vif. Une noisette de beurre, un trait d'huile d'olive et hop, le bruit de la poêle qui chante est le signe du mélange parfait entre les acides gras monoinsaturés de l'huile d'olive et la libération de bons sucs permise par le beurre. Un bon moyen de profiter du point de fumée de l'huile d'olive sans se passer du goût lacté si réconfortant du beurre. Merci à Yuen Lelay et à Julia Sedevjian de nous avoir donné de leur temps pour parler de beurre et d'huile d'olive. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Leistari, montée et mixée par Thomas Decourt, programmation par Cassandra de Carvalho et coordination par Laura Cuissard avec l'aide de Mathilde Vinet. À mercredi prochain!